Bonjour, Michel Garcia, délégué du préfet dans les Yvelines. Je vois que vous êtes signataire des contrats de ville. Il existe au niveau national un dispositif qui s'appelle charte quartier-entreprise. Celle-ci est-elle déclinée sur le territoire? Voilà, alors le dispositif charte entreprise est un dispositif national qui est une déclinaison de la loi LAMY et qui doit mobiliser à travers des conventions d'objectifs les grosses entreprises, voire même les PME, les TPE, dans une dynamique d'emploi, développement économique au bénéfice des territoires QPV, quartier prioritaire des politiques de la ville, et des habitants, bien évidemment. Et donc, cette convention, elle est d'abord signée au niveau national, et elle doit trouver sa déclinaison au niveau départemental, à travers une dynamique, une ingénierie initiée par l'État et les différents acteurs locaux.
Bonjour, Frédéric Moulin, Gertegaz. Moi, j'avais deux questions qui concernent le port. Votre présentation, je trouve, évoque assez peu le sujet portuaire. Alors, est-ce que c'est lié à la gouvernance du port? Donc, c'était la première question. Et est-ce que finalement, le fait qu'aujourd'hui le port soit un établissement public de l'État est un frein, on va dire, au dispositif que vous pourriez mettre en place pour développer son attractivité? Puis la deuxième question, et je vais reprendre une question qui a été posée hier par une de nos collègues. Michel Perradi nous a expliqué hier que le port aujourd'hui est un port rentier qui dépend essentiellement du trafic d'hydrocarbures. Dans la mutation nécessaire de l'économie du territoire, comment est-ce que vous appréhendez ce sujet?
Alors non, je n'en ai pas beaucoup parlé, c'est parce qu'on m'a demandé de parler un quart d'heure ou 20 minutes, et je pense que j'ai dû dépasser pour laisser la place au débat. La gouvernance, ouais, c'est une question la gouvernance. C'est Gaudin qui adorait dire le port autonome de Marseille, il n'y a rien d'autonome, hein, parce que c'est l'État qui décide de tout. Donc il ne s'appelle plus le port autonome, il s'appelle le grand port maritime. Il n'a toujours rien d'autonome, puisque l'État nomme la direction. Il se trouve cependant que la Chambre de commerce et d'industrie a un poste, est administrateur du port, et qu'on a de bonnes relations avec le président de son directoire, comme sa directrice, Christine. Après... On est signataire de la charte du port. Après, le port... Vous le savez, j'imagine, il aime bien faire comme il veut chez lui. Et on a des sujets de friction quand on examine notamment, très dernièrement, le PLU de Fos-sur-Mer et les zones de réserve que peut avoir le GPMM, de réserve foncière que peut avoir le GPMM, derrière ces bassins ouest, hein, puisqu'on parle toujours de bassins est, donc c'est ce qui se passe ici en centre-ville, et puis les bassins ouest, c'est ce qui se passe à Fos-sur-Mer. Donc on va y arriver. Je suis pas inquiet quant à la gouvernance du port. Voilà. Après, sur la mutation et le trafic hydrocarbures, je pense qu'on a deux types de trafic. On a le trafic gaz, et vous le savez, puisqu'on a les terminaux gaz qui ont été créés. Je pense pas qu'on ait une baisse à attendre, une diminution de trafic, au contraire, sur ces aspects-là. Après, sur le brut et sur l'activité historique de raffinage qui était autour de l'étang de Berre, qui est aujourd'hui diminué de plus en plus, on est en train de travailler, et c'est mon entreprise qui y bosse, là, sur la requalification de la raffinerie de Total à la Mède pour fabriquer du biocarburant. Après, on peut parler de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Mais en tout cas, ce trafic va diminuer, c'est clair. On va s'inscrire et on travaille à déjà réfléchir ce que sera le 3XL et le 4XL, c'est-à-dire le trafic conteneur qui va faire que se développer. Le problème sur nos bassins ouest, à Fos-sur-Mer, c'est qu'on a un port qui envisage de concurrencer Rotterdam, mais que quand on sort de ce port, on sort par une route départementale qui arrive dans un grand giratoire qui s'appelle la Fossette, qui doit remonter toute la Croix, donc la plaine alluvionnaire à côté de la Camargue jusqu'à Arles, par une 2x2 voies du temps de jadis. pour finir sur l'autoroute A54 dans le contournement d'Arles est problématique. Donc, tant qu'on n'aura pas désenclavé par la route, par le fer, et certainement par la voie maritime, les bassins ouest, on sera tanké, on sera bloqué. Et on réfléchit à ce que doit être le port à horizon 2020, 2030, 2040. Il reste un bout de canal de 1000 mètres, je crois, pour permettre aux barges de remonter jusqu'à Lyon. Et il y a une conférence, là, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, sur Marseille-Port de Lyon, pour qu'on puisse monter des bassins de fosse jusqu'à Lyon en fluvial. Aujourd'hui, les barges doivent passer un petit peu en mer pour remonter le petit Rhône et le Rhône jusqu'à Lyon. Ça veut dire que les capitaines qui sont là doivent être capitaines en cours. Enfin, c'est tout un tas de contraintes qui est... les coques sont pas les mêmes, qui est juste ahurissant. Et on travaille à un développement d'un espèce, on aime bien l'appeler l'Aropa du Sud, en disant on est sur un axe Marseille, Lyon, Genève, de la même manière qu'il y a un Le Havre, Rouen, Paris qui doit se construire. Mais on bute encore sur les problématiques d'infrastructure et de comment je sors. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question. Mais...
En même temps, on a gardé la forme office, qui est un début de base de la suite.
Alors la forme 10, c'est une des grandes formes en Méditerranée qui permet de,
voilà,
d'accueillir les bateaux et d'en faire des réparations et de l'entretien ici sur les bassins est, donc de centre-ville de Marseille. Et puis on essaye de fédérer également, si on est sur la forme 10, sur la réparation navale, tout ce qui peut se passer entre ici, la Ciotat, qui a une vraie culture et qui a aussi une très grande forme pour les... pour les gros yachts, plutôt sur de la grosse plaisance, les fameux yachts, là, qu'on doit taxer, pas taxer, remettre dans l'assiette de l'ISF ou pas, ceux-là même qui viennent se faire réparer à la Ciotat.
Oui, merci. Je voulais revenir sur cette question du port, parce que je pense que c'est une question fondamentale. Moi, ce qui me frappe depuis hier, d'ailleurs, chaque fois qu'on parle du port, on est effectivement tous à peu près d'accord sur le constat de la transformation du port de Marseille, de ses activités. Moi, j'ai dit que le port était un port de commerce géré par la chambre de commerce, hein, quand même. Vous avez perdu un gros morceau, quoi, de ce point de vue. Il y a longtemps, mais vous l'avez perdu. Pour rien, vous n'étiez
pas.
Oui, c'est ça. Donc, le port de commerce était un port de commerce, il est devenu un port rentier. Et aujourd'hui, le port rentier est devenu un port promoteur. C'est-à-dire que. Il y a eu une transformation. Aujourd'hui, l'essentiel de l'activité du port, gouverné par ceux dont on a parlé, c'est un port promoteur. C'est plus un port rentier, en tout cas, il est... Mais moi, ce qui me frappe dans la discussion, c'est que tout se passe comme si, c'est une phrase de sociologue assez répétée, tout se passe comme si la concurrence était passive. C'est-à-dire qu'on dit, ah ben, on va faire du port de Marseille, ah ben tiens, oui, mais Marseille a dédaigné le container, donc on va faire du container. Le problème, c'est que pendant que Marseille réfléchit à comment on va contourner Arles, Tangemed est en train de devenir le premier port méditerranéen et est en train régulièrement et chaque mois un peu plus de concurrencer Anvers et Rotterdam. Donc, tout le monde sait, tout le monde, et vous certainement beaucoup mieux que les autres, tout le monde sait qu'il va y avoir à l'horizon 10 ans un port en Méditerranée. Pas deux, pas trois, pas quatre, un. Tangemed, Port Saïd, la question va se poser comme ça. Est-ce que ça sera Tangemed? Est-ce que ça sera Port Saïd? Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas Marseille. Donc, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu... Je ne sais pas comment donner un mot et je ne veux pas le qualifier en faisant de la morale, mais je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas un peu plus clair de dire que le port de Marseille a perdu la bataille commerciale, c'est-à-dire la bataille des containers, la bataille d'un certain nombre de roll-on, roll-off, etc., qui sont aujourd'hui les activités portuaires commerciales, c'est-à-dire qui produisent des effets commerciaux, et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce port qui, de toute façon, a perdu la bataille commerciale. Plutôt que de dire, ah ben, on va essayer de rattraper des choses qui ne sont pas rattrapables. La politique de CMA-CGM, de ce point de vue, elle est exemplaire. CMA-CGM est installée à Marseille. Mais combien de containers CMA-CGM transitent par Marseille? Il a quand même acheté un quai de 1,2 km de long sur Tangemed, sur lequel il fait débarquer l'essentiel de ces gros containers qui ne mettent jamais les pieds à Marseille ou à Fos. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a quand même une vraie discussion qui, de mon point de vue, n'a jamais lieu sur l'avenir de ce port. Deuxième chose que je voulais dire, je suis trop long, je m'excuse, je vais essayer d'être plus rapide. Sur sur le rapport au Sud, on dit, pareil, vous n'êtes pas le premier à le dire, mais vous le dites aussi, il faut que Marseille établisse sa continuité avec Paris. Le problème, c'est que cette continuité, cette relation commerciale, cette relation culturelle, sociale, elle existait et elle a été défaite. Et donc, si elle a été défaite, l'économie a horreur du vide, hein, on est d'accord. Donc, si elle a été défaite, c'est qu'elle a été récupérée par d'autres. Je vous donne un exemple. Marseille était l'entonnoir qui faisait transiter sur l'Afrique jusqu'aux années 80 la quasi-totalité des voitures d'occasion d'Europe qui transitaient vers l'Afrique. C'est un marché énorme. Faut pas en rigoler, hein. C'est pas un marché informel, c'est un marché énorme. Où est-ce qu'il est, ce marché, aujourd'hui? À Anvers, la Grimaldi Lines achemine chaque année 400 000 voitures d'occasion sur le port de Cotonou. La ligne qui avait été la ligne Alger-Marseille ou Marseille-Casa ou Marseille-Dakar s'est transformée en ligne Anvers-Cotonou. Baltimore-Cotonou. Il arrive sur Cotonou 1 200 000 voitures par an, qui sont des voitures d'occasion, qui viennent la moitié d'Anvers, la moitié de Baltimore. Donc, le problème, c'est que quand on dit on veut créer une continuité avec le Sud sur Marseille, c'est, là encore, le rapport de concurrence, il existe. On va prendre des choses qui sont faites. Quand on dit Marseille, porte du Sud, moi, ça me fait doucement rigoler, la porte du Sud, elle est passée de l'autre côté. C'est Tanger, la porte du Sud. C'est plus Marseille, la porte du Sud. Marseille, c'est aujourd'hui la porte vers Paris. La quasi-totalité des mobilités internationales ou des mobilités sur Marseille sont des mobilités qui vont sur Paris. L'aéroport Marignane, où est-ce qu'il amène les gens? À Paris, pour l'essentiel. Mais si, pour l'essentiel des trafics, oui. L'essentiel des circulations, les gens vont sur Paris. Passagers, bah, bien sûr. Ah oui, bah, je ne porte pas du fret. Les passagers, oui. Donc, il y a là quelque chose qui me, moi, qui, je sais pas, qui m'interpelle, c'est, on a l'impression que les aménageurs, au sens très large du terme, pensent Marseille dans un monde où il n'y a pas de concurrence, où il n'y a pas de rivalité, où on a fait une erreur, on va reprendre les choses, comme si la métropole était, au fond, un peu seule au monde. Une troisième chose que je voulais vous dire, je pense que là-dessus, on sera d'accord. Moi, je pense qu'il y a une contradiction de fond.
Vous êtes d'accord sur les deux premières,
hein. Oui, je sais, non, mais je veux dire d'accord au sens où...
Après, je ne pense pas comme ça. Ouais. Ouais, mais... Ça ne me va pas. Ouais.
Non, mais ça va être moi non plus. Moi non plus, hein, mais est-ce qu'on fait un vegan? Non, comme ça, hein, on dirait John Wayne. La troisième chose qui m'a frappé dans ce que vous dites, et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais à la façon dont vous le dites, je le vois très clairement. Je pense qu'il y a une sorte de contradiction, au sens très économique du terme aujourd'hui dans cette région, entre au fond deux grandes tendances qui sont un peu en électricité. Il y a d'un côté, si on poursuit la logique touristique, si on poursuit la logique qui est celle du développement des Alpilles et d'Aix-en-Provence, etc., on est sur une logique de rente foncière. C'est-à-dire qu'au fond, l'important dans cette région, c'est de faire monter les prix du terrain sans arrêt, pour arriver aux prix qui sont ceux d'Aix-en-Provence, pour arriver aux prix qui sont ceux du Luberon, etc. Donc, on est dans une logique de rentabilité, qui est une logique de rente foncière, pour un monde qui est un monde de propriétaires qui vont rentabiliser leur terrain, qu'ils soient de gros propriétaires promoteurs, ou qu'ils soient de petits propriétaires, etc. De l'autre côté, ce que vous semblez vous défendre, et je pense que vous n'êtes pas le seul, c'est-à-dire qu'il y a un vrai univers social qui défend ça, on est sur une logique de rente industrielle, c'est-à-dire de pouvoir produire aujourd'hui, ou reproduire, ou reconstituer de la, vous l'avez dit, de la productivité économique. Mais est-ce que ce n'est pas une contradiction? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est en contradiction et qui fait qu'à un moment donné, ça produit des conflits, ça produit des blocages, etc. Est-ce que c'est aussi bisounours que ça? C'est-à-dire, est-ce que ça va de façon fluide, etc. Ou est-ce que à un moment donné, il ne va pas y avoir une vraie bagarre dans cette région entre ceux qui sont plutôt porteurs d'une rentabilité productive économique, comme vous dites, et ceux qui sont au contraire dans une logique de rente foncière? Et on sait très bien, par exemple, que la quasi-totalité... Une fois qu'on a enlevé la psychologie, les mentalités, les machins, on sait très bien que 90% des notables de la région sont sur cette perspective de rente foncière, et pas du tout sur une logique de productivité économique.
Voilà.
Pour un micro, je l'ai mis sur Roche.
Tu peux dire un mot ou...
Je vous en prie. Je dirais juste que la contradiction se résout par le BTP, mais je vous donne la parole.
Vous avez raison avec tout ça, mais vous êtes putain de pessimiste et putain de défaitiste. Donc vous êtes celui qui continue à réaffirmer, à redire ce qu'on entend sur ce territoire depuis des dizaines et des dizaines d'années, et vous le savez. La guerre, l'opposition, elle a déjà eu lieu, elle a déjà commencé. Elle a commencé quand on a eu cette mission de préfiguration et cette volonté de construire cette métropole. Entre, pour, vous voulez que je balance, schématiser ce qui se passe à Aix-en-Provence avec ses élus et puis ce qui se passe ici à Marseille avec ses élus qui ont d'autres problématiques. Où Aix se rêve entouré de barbelés, vivant sa vie tranquille comme il a toujours fait avec son cours Mirabeau et puis son quartier à droite là... Mazara, merci. Où on est sur cette logique là? Bien sûr qu'il y a des tenants de ça. Je dis juste que nous, Chambre de commerce et d'industrie, Marseille, Provence, la mandature qui vient d'arriver, on est en train d'essayer de porter la vision contraire. Qu'on est arrivé à signer une convention avec la métropole qui aujourd'hui existe, qui est compliquée, 240 élus à l'Assemblée métropolitaine. Ouais. Mais on a créé ce réceptacle dans lequel ces orientations politiques vont être discutées. Est-ce qu'on aura gain de cause? Je ne sais pas vous dire, mais on va se battre pour ça jusqu'au dernier souffle. Donc oui, le port, c'était votre première question. Le modèle doit changer. Peut-être que le combat est déjà perdu, mais putain, 100% de ceux qui ont gagné, ils ont joué. Hein. Alors, si tu joues pas, t'es sûr que t'as perdu. Ça c'est certain. Alors, faut pas aller mener des combats qui sont perdus déjà. Je suis d'accord. Mais il y a quand même des gros avantages ici sur Marseille, sur la réserve foncière derrière dans la Cro. Et là, il faudra de vraies volontés. Ce qu'il n'y a pas en Anvers, ce qu'il n'y a pas Rotterdam, ils sont coincés, ils sont plantés. Ils sont déjà sur des... Ce qui est à Tanger. Sauf qu'à Tanger, t'as pas la clientèle au cul, quand même. Une fois que t'as dépoté à Tanger, il faut revenir. J'ai cet aéroport qui est le premier aéroport de fret. Et donc je suis dans une logique de le dernier kilomètre, une fois que j'ai amené mes produits chinois ou d'ailleurs sur mon port, comment je vais les amener à mes clients qui sont à Hambourg, à Paris, à Londres, en Autriche. Un type comme Bolloré regarde ce qui se fait ici et ce qui va se faire demain ici sur le rapprochement de l'aéroport sur son aspect fret et du port, pour une seule raison, c'est que lui il a les ports en Afrique, hein. Et qu'à un moment donné, une fois que tu as posé tes marchandises au bord de la mer, il faut bien aller les amener. Alors, ils ont déjà un temps d'avance sur la livraison par drone, tous ces trucs-là, qui restera un petit peu compliqué à faire chez nous. Donc c'est des sujets qu'on a bien en tête. Et puis, le développement de ce que j'appelle l'économie productive, parce que tout le monde ne pourra pas bosser dans les services, dans la fonction publique ou dans le tertiaire. Et qu'à un moment donné, si on veut donner du boulot aux gens qui sont dans ce pays-là, il va bien falloir que... On redéveloppe quelque chose de productif pour pouvoir satisfaire tout le monde sur des filières différenciantes. On les appelle d'excellence, on les appelle comme on veut, parce qu'on a des vrais moteurs sur le territoire. Et ça, comment on fait pour passer devant... parce qu'on parle aujourd'hui à Paris, à Londres ou à toutes les capitales, on est en train de se comparer à Bratislava, à Manchester, mais c'est déjà un début. Il y a cette volonté. Est-ce qu'on sera suivi par nos élus? J'en sais rien. Pour devenir régulariser notre relation avec le Sud, c'est pas nous, ni la Chambre de commerce, ni même nos élus ici, politiques, locaux, qui y arriveront. On a besoin que les relations politiques, diplomatiques, se régularisent entre l'État français et l'État algérien. On a besoin qu'on arrive de se tirer la bourre avec le Maroc. Moi, mon entreprise, on a créé un centre de formation au Maroc. Travaux publics. Pour former des salariés qui vont bosser sur l'Afrique noire. Parce que c'est plus facile de partir du Maroc que de partir d'ici. On est dingue. On s'adapte. Enfin, on pourra en discuter mille ans, hein, de tout ça. Mais c'est vrai que c'est le fondement de je continue à travailler à la CCI ou alors je retourne dans ma boîte et puis c'est pas grave. Hein. Mais on est bien convaincus que tout ça c'est concurrentiel. Et je pense que les concurrences, elles s'exercera entre métropoles. Et que l'organisation territoriale qui nous a été imposée, la loi NOTRe. Moi, je suis persuadé que la loi NOTRe, c'est juste l'aboutissement de la décentralisation de fer de 82. C'est déjà un schéma, le schéma de nos régions, c'est un schéma du XXe siècle. C'est pas un schéma du XXIe siècle. Et pourtant, on est obligé de jouer avec.
Que les dernières questions, on les regroupe, qu'on se prenne encore 5 minutes, mais vraiment pas une de plus pour poursuivre après. On les regroupe et que vous y répondiez rapidement en tir groupé.
J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez à propos des ports, la comparaison que vous avez fait avec le Havre tout à l'heure, et puis en disant là, on a de la réserve foncière contrairement au port du Nord. Oui, mais cette réserve foncière, vous l'avez dit, elle est dans la Camargue, elle est dans la Crau. Pour avoir passé un peu plus de 6 ans en Seine-Maritime et avoir vu les épouvantables difficultés du port du Havre de s'étendre, parce que derrière, il y a des zones qui bénéficient d'une protection européenne environnementale de niveau très fort, je crois savoir que la Camargue et la Crau en bénéficient aussi. Est-ce que vous ne risquez pas de buter là aussi devant une difficulté pour exploiter ces ressources foncières ?
Moi, j'aurais souhaité votre avis. Donc, Muriel Lebet, je travaille pour l'industrie métallurgique et l'industrie chimique en Normandie. J'aurais souhaité votre avis sur ce que je mettrais derrière intelligence collective entre les gouvernances de nos instances, comme les CCI. On a beaucoup d'élus communs, mais j'ai l'impression qu'ils deviennent schizophrènes quand ils sont élus au sein des CCI. Ou pour vous, ça doit être la même chose. Donc les intérêts ne sont pas partagés, ou il n'y a pas d'intelligence collective dans nos instances. C'est-à-dire, là, vous parlez de filières d'excellence, et à l'intérieur des filières d'excellence, j'imagine, vous mettez l'aéronautique, voilà. C'est de la métallurgie. Donc comment on travaille avec les branches, et surtout comment les équipes opérationnelles travaillent ensemble. Il y a la gouvernance, et comment on met de l'intelligence collective dans nos systèmes.
La dernière question.
Vous avez évoqué une nouvelle mandature pour la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce changement et quelles sont les lignes de force que ça fait bouger ? Quels sont les poids lourds qui ont fait qu'à un moment donné la Chambre de commerce devienne moteur ? Parce que ça semble être un changement assez important.
Ça rejoint celle-là, peut-être répondre à votre question.
D'abord, ouais, vous avez raison. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Non, mais c'est sûr. On n'y arrivera pas nous seuls, en tout cas. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait une volonté politique partagée et puis qu'il y ait des pressions, du lobbying qui soit fait d'abord à Paris et puis certainement à Bruxelles. Bien sûr. Et on se structure pour pouvoir commencer à faire ce lobbying. Des mots qui sont juste des gros mots dans l'esprit des Français que nous sommes et dans l'esprit d'une chambre de commerce provinciale, la plus vieille du monde. Vous avez vu le bâtiment en centre-ville, c'est juste magnifique. Marche tous les jours sur du marbre blanc et du marbre noir, posé en mosaïque. Voilà. Enfin, j'ai pas plus à vous dire, mais il faudra se battre, bien sûr. Il faudra réussir à déclasser certaines zones, bien sûr, sinon c'est incompatible. La question sur donc dans nos instances, j'ai bien compris, c'est les branches dont l'UMM, la plus puissante et la plus respectable de toutes nos branches, et le monde consulaire. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que c'est des mondes qui se sont regardés, qui se sont qui ont avancé en parallèle sans jamais se rencontrer pendant des années. Et c'est juste pas possible. Donc dans tous les projets dont on a parlé, bien sûr que ça se fait en relation avec les branches professionnelles. C'est quand même un sujet qui va être exacerbé, à mon sens, dès demain matin, mais dès hier, avec cette réforme de la formation professionnelle qui va nous tomber dessus, et donc la réforme numéro 2, en fait, sur son financement et les circuits de circulation des milliards. Le réseau consulaire, il ne vous a pas échappé que les recettes issues de l'impôt, pour faire simple, on diminuait il y a 2 ans. C'est presque 50% ici, hein, sur Marseille. On vient de nous annoncer il y a 2 semaines moins 17%. On pensait qu'on aurait une mandature, en fait, pour faire face à ça. Ça va s'accélérer. Donc on est déjà, nous, ici, dans l'idée et dans le modèle où on aura zéro. Et donc, comment on se finance? C'est quoi le modèle économique d'une chambre de commerce et d'industrie? Et avant de se dire c'est quoi le modèle économique, il faut se dire, est-ce que ça sert à quelque chose une chambre de commerce et d'industrie pour les entreprises du territoire? Et est-ce que les branches professionnelles, est-ce que l'interpro, comme on dit, les partis politiques sont d'accord pour dire que ça sert à quelque chose? Donc ça c'est une réflexion qui est en cours et qui doit avoir lieu. On va avoir 2 ans pour la mener, grand maximum je pense. Et nombre de chambres de commerce et d'industrie sur le territoire disparaîtront. Et quand on regarde le maillage des chambres de commerce et d'industrie en Europe, on voit qu'il y a une densité quand même en France qui est juste différente de ce qui se passe ailleurs. Sur la formation, oui, on aura une grosse bataille entre les branches professionnelles qui vont affirmer leur compétence et leur prééminence comme étant seul à savoir ce qu'il faut mettre dans les contenus de formation des salariés. Et puis le monde consulaire en général, hein, chambre de commerce et d'industrie, ou chambre des métiers, ou chambre de l'artisanat, pour qui ça va être un biais de survie peut-être. Et donc soit on y arrivera, soit on n'y arrivera pas. Moi là pour le coup je suis réellement schizophrène, parce que je suis président de la commission formation de ma branche au national. Dites-moi.
Changement de mandature.
Et pourquoi? Ouais. Ben, forcément, c'est une génération qui a changé. On a renouvelé 95% des élus ici. 95% des élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille n'étaient pas élus sur la mandature précédente. On est la chambre la plus féminisée de France. On est à 48-52 en termes de féminisation. On est pratiquement tous en activité. C'est-à-dire qu'on donne notre temps pour travailler à l'intérêt collectif sur des missions qui sont quand même des missions inscrites dans la loi. Hein. Et quand on siège, on a le préfet, ses représentants qui viennent vérifier ce qu'on fait. Pourquoi ça change vite? Je pense parce qu'on est convaincu que c'est la mission, c'est la mandature sacrifiée. C'est qu'on a 5 ans pour réussir à c'est un peu la suite de ce que je disais là, à inventer, à mettre en place un nouveau modèle et à éclaircir ce qui est important, ce qui n'est pas, ce qu'il faut continuer à faire, ce qu'on peut faire passer au privé, ou alors on va disparaître. Mais je ne crois pas qu'on va disparaître, parce que c'était un représentant des chambres de commerce européennes qui me disait, il était en voyage en Amérique du Sud, dans un bled, c'était en Équateur, donc aux confins de l'Équateur, une ville de 25 ou 30 000 habitants, il arrive sur la place de cette ville, je veux dire du village, et il y avait la mairie, l'église, et au milieu un bâtiment blanc avec des colonnes où il y avait écrit « Chambre de commerce ». Et donc c'est bien que partout sur la planète, les chefs d'entreprise ont besoin à un moment donné de mettre en commun quelque chose pour défendre des intérêts. Après, ce qui va être défendu, porté par une chambre de commerce à Marseille, ce ne sera pas ce qui va être porté à Nice, ce ne sera pas ce qui sera porté à Tanger, ce qui sera porté ailleurs, peu importe. Il faut que chacun invente son modèle. Mais on est d'ores et déjà sur, allez, 15 métropoles en France aujourd'hui, 7 de plus au 1er janvier, donc parce que ça fait 22 métropoles, parce que chaque région voulait sa métropole et qu'il fallait Dijon, et que si Dijon était métropole, pourquoi Toulon ou Saint-Étienne ne le serait pas? Du coup, les plus grandes, celles qui ont une ambition européenne, vont dire « Non mais moi je suis la super métropole, je suis la mégalopole, plus 13 régions. » Donc ça fait 15 et 7, 22, et 13, 35. Voilà. Ça c'est le maximum, de mon point de vue, du nombre de chambres de commerce qui vont survivre. Et ensuite se posera la question de savoir si une chambre de région dans une capitale régionale, plus sa chambre métropolitaine, ça a du sens. Et donc je réenlève les 13 et certainement qu'on ira à 15 plus 7, 22. L'avenir nous le dira. En tout cas, on se prépare à ça. Merci à vous tous.